Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Que fait vraiment un chef d'orchestre ? Derrière la gestuelle qui attire tous les regards, la fonction du chef d'orchestre dépasse souvent ce que l'on imagine. Est-il un guide, un interprète ou un créateur ? Pour en parler, nous recevons Bruno Mantovani, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur, vos œuvres sont jouées dans le monde entier, mais vous avez à votre actif de nombreuses autres activités, comme celle donc de chef d'orchestre. Ironie du destin, quand vous étiez jeune garçon, votre institutrice de maternelle vous avait donné comme animal totem un escargot. Elle était loin de deviner la carrière frénétique que vous avez vite entamée. Merci beaucoup d'être dans notre studio pour nous dévoiler les coulisses d'un métier où la précision, l'écoute et l'instinct sont rois. Alors, l'escargot, vous lui avez dit non merci. Vous, c'est un autre animal qui vous intéresse, Bruno Mantovani. Ça peut prêter à sourire, mais vous comparez le métier de chef d'orchestre à un métier de poulpe. Pourquoi ?
Parce que le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui doit avoir une espèce de regard sur tout ce qui se passe devant lui, techniquement, musicalement, managérialement. Le mot peut paraître un petit peu étrange, mais on développera sûrement. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui ne peut pas tout gérer en même temps, mais doit créer une hiérarchie pour être présent à peu près partout. Il y a ce côté un peu tentaculaire. Donc, oui. Et puis, comme ma vie est une vie de poulpe en soi, puisque vous citiez les activités qui sont les miennes, la composition, on est évidemment élu à l'Académie des Beaux-Arts parce qu'on est un créateur et pas un interprète. Donc, la composition, évidemment, la gestion d'établissements, la direction artistique d'un festival, etc., etc. La radio, puisque j'ai été producteur à France Musique pendant une année. Donc, c'est pour moi, si vous voulez, être un poulpe dans le poulpe. C'est un petit peu ça, ce que je ressens comme sensation quand j'arrive devant un orchestre.
Alors, la fonction de chef d'orchestre, elle est assez récente dans l'histoire de la musique. En tout cas, l'affirmation de ce statut est arrivée au cours du 19e siècle. Avant, c'était le premier violon qui guidait les orchestres. Pourquoi cette figure du chef d'orchestre est apparue progressivement ?
Quand vous jouez une symphonie de Mozart, finalement, vous avez un même tempo du début à la fin d'un mouvement. Une fois que le tempo est donné et que quelques indications musicales sont données, tout se passe très bien. Quand on arrive des musiques du XXe siècle, sans parler même du XXIe siècle, on est obligé d'avoir un leader, quelqu'un qui va donner les instructions parce que, ne serait-ce que visuellement, tout l'orchestre ne verrait pas le premier violon, ne serait-ce que pour cette raison. Et puis, il faut voir qu'entre le XVIIIe et le XIXe siècle, il y a eu un développement de l'orchestre. On est passé de l'orchestre mozartien de 30-35 musiciens à l'orchestre mahlérien d'une centaine de musiciens, par exemple. Donc, plus vous rajoutez comme ça de couches musicales, de strates, plus vous avez besoin de quelqu'un qui incarne non pas l'autorité au sens autoritarisme, mais une vision unique qu'il propose, voire qu'il impose à l'orchestre qui est devant lui.
Est-ce qu'on peut dire que les orchestres se sont complexifiés au fur et à mesure
Se sont densifiés, se sont complexifiés. De nouveaux instruments sont apparus dans l'orchestre. L'orchestre mozartien comporte des clarinettes assez tardivement, par exemple. La clarinette s'est imposée un peu à la fin de la vie de Mozart, totalement autonome sous Beethoven, par trois après dans des compositeurs plus tardifs, notamment dans certaines œuvres de Brahms ou de Schumann, et puis par quatre, par cinq, avec la clarinette basse qui est arrivée à l'orchestre, notamment sous Wagner. Donc oui, l'orchestre s'est étendu avec le développement de la lutherie et avec aussi l'évolution de la lutherie. C'est-à-dire que on est passé des trompettes naturelles, c'est-à-dire sans piston, aux trompettes avec piston, qui ont permis de faire d'autres notes, de jouer d'autres notes. Et puis la virtuosité instrumentale s'est développée. Mais vous savez, si vous prenez... moi, j'ai eu des expériences terribles avec ça, d'ailleurs, en tant que compositeur. Des œuvres que j'avais écrites il y a 25 ans, qui étaient jouables par 5 musiciens dans le monde. Je pense à une pièce de percussion de marimba, qui était vraiment... incarner quasiment l'utopie. Maintenant, vous avez des gamins dans les petits conservatoires de région qui les jouent. En 25 ans, voilà l'évolution. Donc, on a quand même une évolution de la virtuosité qui incite d'ailleurs le compositeur à écrire plus difficile, peut-être, et donc qui nécessite qu'il y ait un chef qui mette tout le monde d'accord.
Comment vous expliquez cette évolution de la virtuosité ? Est-ce qu'elle peut s'expliquer ?
Exactement comme dans le sport, les moyens, le travail, les méthodes de travail, peut-être qu'on commence plus jeune. Le niveau technique augmente de toute façon dans toutes les disciplines, dans les sciences dures, en médecine. Et donc, il est naturel qu'on repousse aussi les limites de la technique instrumentale.
Dans les fonctions du chef d'orchestre, vous disiez tout à l'heure mettre tout le monde d'accord, coordonner, synchroniser, puis aussi orienter l'interprétation des œuvres.
Absolument.
C'est une composante essentielle. Comment vous faites ?
Alors, on va prendre le cas de figure classique, c'est-à-dire sur une œuvre du répertoire, pas une création. Une symphonie de Beethoven, de je ne sais qui, bon. Tous les musiciens l'ont peut-être joué, peut-être certains ne l'ont pas joué, mais en tout cas, chacun peut avoir son idée sur l'œuvre. Est-ce que on va jouer plus vite, plus lentement ? Est-ce que là, la partie de violon doit être plus forte, moins forte ? Bon. Si vous laissez l'orchestre en autogestion, de toute façon, il cherchera un leader pour fixer des règles. Sinon, c'est l'anarchie la plus totale. Donc, le chef d'orchestre, il est là pour juste mettre les gens d'accord. Et pour ça, il dispose de plusieurs techniques. D'abord, le geste, avant tout, puisque le geste, alors la main droite, elle sert à donner le tempo, elle sert à donner aussi les dynamiques. C'est-à-dire, si vous faites des grands gestes, l'orchestre joue plus fort. Si vous faites des petits gestes, il joue moins fort. C'est très intuitif. Hein. Pendant que la main gauche, elle, a un autre rôle plus expressif, déjà donne une complexité de votre vision, de ce que vous avez entendu intérieurement, ce que vous voulez recréer avec l'orchestre. Le regard est important aussi. Et puis, l'autre moyen, c'est la parole en répétition. Alors, la parole, c'est dangereux. Parce que les orchestres ont des fois besoin qu'on leur parle, mais pas trop. Il n'y a rien de pire qu'un chef d'orchestre qui arrive devant un orchestre, qui fait une grande conférence, qui vous explique par A plus B que là, il faut jouer comme ci ou comme ça. Les orchestres détestent ça, les orchestres ont besoin de jouer. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ce que vous dites et ce que vous montrez par le geste et le regard.
Et là, vous parliez main droite, main gauche, ça ne change pas selon que le chef d'orchestre soit gaucher ou droitier, c'est toujours comme vous l'avez décrit ?
C'est presque toujours, mais il y a quelques contre-exemples, il y a quelques chefs qui dirigent avec la baguette à gauche. C'est assez rare, mais ça existe, oui. C'est presque un peu déstabilisant, mais il y a des personnalités très fortes qui dirigent à gauche. Oui,
en effet. Tous les chefs d'orchestre utilisent la baguette, c'est obligatoire ?
Non, pas du tout. Moi, je ne l'utilise pas. Si on est en train de célébrer le centenaire de la naissance de Pierre Boulez, Boulez dirigeait sans baguette. Je pense que la baguette, elle incarne aussi, finalement, un type de répertoire. Dans la musique dite contemporaine, on a besoin finalement de gestes plus économes parce que de plus grande précision. Et souvent, la baguette est presque un élément qui dérange l'orchestre. Tout dépend des répertoires que vous dirigez.
En tout cas, la communication non-verbale reste très importante. Et que ce soit le geste ou le regard, ils sont autant importants l'un que l'autre lorsque vous dirigez un orchestre.
Bien sûr. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours des contre-exemples dans la vie. Regardez Herbert von Karajan diriger les yeux fermés.
Ah oui.
La plupart de son répertoire. Donc, vous pouvez avoir d'autres façons de voir l'orchestre et de diriger l'orchestre. Le problème de l'orchestre, c'est que c'est un instrument. Sauf que quand vous faites du piano, vous avez votre piano chez vous, vous travaillez, il y a du son tout de suite. L'orchestre, vous ne l'avez pas à demeure à la maison, il faut avoir une grande maison déjà. Donc, si vous voulez, vous transmettez à des musiciens une façon de jouer, mais finalement, c'est eux qui ont le dernier mot. Un orchestre qui peut être très réticent vis-à-vis d'un chef, et ça existe, hein, peut très bien, pas saboter, mais en tout cas, imposer des choses que le chef ne désire pas, et de toute façon, vous perdez quand vous êtes 1 contre 80 ou contre 100 musiciens. Donc, c'est un instrument étrange, la direction d'orchestre, parce que c'est un ping-pong où vous transmettez au public qui est derrière vous, c'est quand même le seul métier où vous tournez le dos au public, la musique qui est devant vous. Vous voyez, c'est alors, parce qu'on a l'habitude, on ne se pose plus ces questions-là. Mais si vous y réfléchissez bien, c'est quand même une situation géographique et dramaturgique qui est assez étrange.
Et assez inédite. Alors, il y a plusieurs familles d'instruments qui cohabitent dans les orchestres. Il y a les cordes, les cuivres, les bois, les percussions. Vous êtes percussionniste de formation, Bruno Mantovani. Comment vous définiriez la couleur orchestrale de cette famille d'instruments ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce que les percussions apportent à l'orchestre ?
C'est une grande question. D'abord, peut-être que le public ne le sait pas, mais il y a deux statuts de percussionniste dans un orchestre. Il y a le timbalier et le percussionniste. Un percussionniste n'a pas le droit de jouer des timbales. Alors, il y a des contrats qui permettent des petites choses,
mais...
Et un timbalier ne joue pas de percussion. Le timbalier, c'est le percussionniste historique de l'orchestre, parce que des timbales, on en a chez Mozart, on en a chez Beethoven, on en a même dans des musiques plus anciennes. Donc, c'est un peu le pilier de l'orchestre avec les contrebasses. C'est lui qui va donner les graves, qui va donner les articulations. C'est un instrument mélodique, la timbale, pas un instrument purement bruitiste, comme une caisse claire ou comme des castagnettes ou je ne sais pas quel autre instrument. Et puis, le percussionniste, donc, à l'origine, jouait surtout des cymbales frappées, vous savez, ces espèces de grandes casseroles, ou couvercles plutôt de casseroles que l'on frappe l'une sur l'autre, jouait la caisse claire, donc le tambour, le boléro, des choses comme ça. Et puis, d'autres instruments se sont rajoutés progressivement. les claviers, donc le xylophone, le marimba, le vibraphone, etc. Et puis toutes les percussions extra-européennes qui sont arrivées, notamment pendant la seconde moitié du 19e siècle, des instruments balinais, chinois, japonais, etc., qui maintenant sont totalement courants dans l'orchestre symphonique, notamment dans la musique contemporaine. Donc la percussion, elle est là à la fois pour donner de l'épaisseur, pour orchestrer, pour renforcer, ça c'est son métier premier, mais avec la modernité de la seconde partie du XXe siècle, elle a aussi sa propre autonomie. Alors là, je vais prendre ma casquette de compositeur. Il m'arrive dans des œuvres symphoniques de donner vraiment à un moment une importance très particulière aux percussions qui deviennent presque un instrument soliste.
Qui vous a donné le goût des percussions ?
Alors les percussions, c'est venu par d'abord par la confusion entre percussion et batterie.
D'accord.
C'est-à-dire que quand j'étais petit, bon, je voulais faire de la musique. Mes parents étaient tout à fait conscients qu'il y avait une obsession du son et de la musique. Et donc, j'ai commencé par le piano. Et puis, j'aimais la chanson, la variété, le jazz. Ce que j'en connaissais me plaisait. Et donc, mes parents on se sent dit que c'était peut-être bien que je fasse de la batterie. Sauf qu'il n'y avait pas de classe de batterie à l'époque. Au moment conservatoire, il y avait une classe de percussion. Et là, ça a été ce qui a fait basculer ma vie. C'est-à-dire que sur cette confusion, j'ai découvert la musique contemporaine, la musique d'Edgar Varèse, la musique de Pierre Boulez, etc. Et rapidement, je me suis dit, mais en fait, le métier que je veux faire, c'est d'écrire de la musique. C'est pas forcément d'en jouer.
Vous venez de le dire, vous portez cette double casquette de chef d'orchestre et de compositeur. Cet habit de chef d'orchestre que vous avez endossé un peu plus tard dans votre carrière, est-ce qu'elle a eu une influence sur votre manière de composer quand vous écrivez une œuvre ?
Oui, très naturellement. Alors, on pourrait même parler justement de Pierre Boulez. Pierre Boulez avait une écriture assez utopique dans ses premières années, des œuvres extrêmement difficiles. Quand il a commencé à diriger, et à l'origine, il était le chef d'orchestre de la compagnie Renaud Barreau, donc pour des musiques de scène, tout de suite, il y a un sens des réalités qui vous rattrape. Parce que écrire de la musique est un acte solitaire qui s'adresse à une collectivité, mais vous n'avez là pas non plus toujours les musiciens sur place pour vous montrer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. La connaissance de l'orchestre par la pratique de la direction, elle est irremplaçable. C'est ce qui vous fait comprendre que tel type de mode de jeu est utile, tel autre l'est moins, que telle orchestration, finalement, pourrait être faite de façon plus simple. Donc, évidemment, que la réalité imposée par la direction d'orchestre est intégrée très rapidement à votre langage quand vous êtes compositeur.
Et ça vous arrive de diriger vos propres œuvres, les œuvres que vous avez composées vous-même ?
Oui, ça m'arrive assez fréquemment. C'est un exercice qui est toujours plaisant parce que vous savez, il y a trois types de répertoires. Il y a celui où le compositeur est mort. Alors là, on fait ce qu'on veut. Il n'est pas là pour venir vous dire que c'est bien ou c'est pas bien. Il y a celui où le compositeur est vivant et il est derrière vous. Alors là, il peut très bien dire non, mais là, tu avais pensé à tel tempo, mais je pense que c'est mieux plus lent. Puis là, j'ai pas entendu cette chose-ci ou cette chose-là. Et puis, il y a le compositeur quand vous êtes vous-même compositeur et que vous êtes interprète de vos œuvres. Donc là, il y a finalement quelque chose qui relève d'une familiarité. Et vis-à-vis de l'orchestre, évidemment, si vous avez une technique de chef d'orchestre qui est efficace, l'orchestre en général aime bien parce qu'on rentre tout de suite dans le style et on sait qu'il n'y a pas de marge d'erreur puisque vous êtes vous-même l'auteur de la partition.
Mais ça doit vous sembler très satisfaisant, non, de pouvoir diriger des œuvres que vous avez vous-même composées, parce que parfois, à contrario, vos œuvres sont jouées par d'autres chefs d'orchestre. Parfois, vous n'avez pas l'impression qu'on dénature ce que vous avez écrit, ou alors
Non, ça dépend. Ça dépend. Il y a tout un tas de chefs d'orchestre qui ont beaucoup dirigé la même musique. Je vais citer par exemple Pascal Roffet, qui vient de créer mon troisième opéra à Toulouse et qui avait dirigé les deux premiers, qui a beaucoup dirigé ma musique d'orchestre, voire de la musique d'ensemble. C'est quelqu'un qui connaît mon langage par cœur et je sais qu'il, même en autonomie d'appui totale, il ne trahira jamais ma pensée parce qu'il connaît. Bien sûr qu'après, on peut rediscuter de détails ensemble, mais on est dans l'ordre du détail. D'autres chefs d'orchestre, en effet, vous dirigent et vous avez juste envie d'une chose, c'est de monter sur scène, de pousser du pupitre et de prendre sa place parce qu'il peut être à côté de la plaque. Bon, ça arrive, bien sûr, mais comme un pianiste ou un altiste peut être aussi à côté de la plaque quand il joue votre musique. Donc, oui, il peut y avoir de temps en temps une petite frustration, mais c'est très bien aussi d'avoir cette espèce d'abandon et de léguer les partitions à d'autres. Du reste, quand un chef d'orchestre que vous connaissez bien dirige votre musique et que vous êtes en répétition, vous avez aussi beaucoup de recul depuis la salle parce que vous n'avez pas à gérer tout simplement les battues, les équilibres, etc. Et donc, on peut aller aussi des fois beaucoup plus loin, quelque part, que si vous dirigez vous-même votre musique.
Et il y a des chefs d'orchestre qui vous ont particulièrement inspiré. Vous parliez de Pierre Boulez tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui, bon, évidemment. Le déclencheur de ma vie de musicien, ça a été de voir et d'entendre Herbert von Karajan quand j'étais tout petit. Il y avait une fascination, mais à l'âge passant, je suis toujours aussi fasciné par cette personnalité incroyable. Dans les chefs d'orchestre que je trouve extraordinairement puissants aujourd'hui, il y a Ricardo Chailly, par exemple, qui est l'actuel chef de la Scala, qui a été pendant longtemps le chef du Concertgebouw d'Amsterdam et du Gewandhaus de Leipzig, qui est un musicien milanais, mais très, très tourné vers la musique contemporaine aussi, très, pas uniquement dans le répertoire bel cantiste, bien loin de là. Des chefs d'orchestre, mais oui, énormément. Moi, je suis un grand consommateur de musique. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais j'écoute beaucoup de musique. Donc, je ne me lasse pas d'écouter de la musique. Donc, beaucoup de grands modèles du passé, peut-être un peu moins de modèles aujourd'hui. Vous savez, maintenant, le métier de chef d'orchestre, c'est extrêmement rajeuni. Quand j'étais petit, on m'expliquait qu'un jeune chef d'orchestre avait 60 ans. Maintenant, nous avons des chefs qui ont 20 ans, qui dirigent les grands orchestres nationaux et internationaux. Et peut-être une petite mode actuellement du spectaculaire, du vite et fort, qui m'ennuie un peu. Donc, j'aime bien qu'on prenne le temps de faire de la musique et de dire les notes, pas être uniquement dans la performance.
Qu'est-ce que ça veut dire, le spectaculaire ?
C'est le vite et le fort, c'est-à-dire des grands contrastes, des tempi qui sont étourdissants de rapidité. C'est quelque chose, finalement, qui peut être un peu superficiel pour moi.
Et alors, vous, à titre personnel, comment vous définiriez votre style de chef d'orchestre, si on peut dire ça comme ça ?
Je sais, enfin, là aussi, ça dépend des répertoires. Moi, j'aime bien les choses qui... J'aime bien la précision, j'aime bien que le discours soit intelligible. Donc, quel que soit le répertoire, qu'on fasse une symphonie de Schubert, un requiem de Mozart ou une création, j'aime bien que le texte soit respecté. Et puis, je n'aime pas la dureté. J'aime une forme d'onctuosité. Donc, quels que soient les répertoires, là aussi, j'aime bien que le son ait un type de qualité et de lyrisme qui fait que, finalement, il y a une forme de séduction, en fait.
Vous dirigez, Bruno Mantovani, depuis 2020, l'ensemble orchestral contemporain, donc spécialisé dans la musique contemporaine des 20e et 21e siècles. Par exemple, récemment, on a pu entendre des symphonies de Gustav Mahler, un compositeur autrichien. Pour qu'on puisse se faire une petite idée, racontez-nous comment vous préparez avant un de ces concerts à domicile.
Alors, une symphonie de Mahler, on joue des transcriptions qui ont été faites par un arrangeur qui s'appelle Klaus Simon, qui a transcrit ses œuvres pour un ensemble de 17 à 20 musiciens, alors qu'elles sont écrites pour une centaine de musiciens. Ce qui nous permet d'abord d'avoir un nouvel éclairage sur cette musique-là, mais aussi que cette musique-là nous fasse progresser pour le répertoire contemporain. Moi, je considère que les œuvres du passé ne sont pas dans des musées, dans un état juste d'exposition. Elles doivent se nourrir mutuellement. Une œuvre du 17e, une œuvre du 21e siècle doivent pouvoir entrer en dialogue. C'est tout un travail que je fais, par exemple, au Printemps des Arts de Monaco, dont je suis directeur artistique depuis quelques années. Avec l'ensemble orchestral contemporain, quand vous avez une symphonie de Mahler ou une création de Philippe Hurel, pour prendre, par exemple, un des derniers compositeurs dont on a créé la musique, d'abord, c'est vous approprier, c'est-à-dire voir comment la pièce fonctionne, comment elle a été bâtie, comment elle est construite, si elle a... des climax, comme on dit, des moments vraiment de puissance, comment on va gérer la lenteur. Bon. Donc, si vous voulez, il y a presque un côté géographique dans ma première approche. Et moi, j'annote la partition, c'est-à-dire je mets les carrures, c'est-à-dire les moments forts où le geste doit être plus incisif. Voilà. Je détaille aussi la géographie instrumentale cette fois-ci, c'est-à-dire quel instrument, à un moment, nécessite une intention particulière. Et puis, je suis français, donc, enfin, j'ai pas de sang français, mais je suis français, donc j'ai une vision un peu harmonique des choses. Donc, en lisant la verticalité des accords, je me dis, que ce soit Mahler ou Hurel, voilà, là, il y a quelque chose qui nécessite peut-être un appui pour qu'on prenne le temps de comprendre. Donc, peut-être que mon geste va ralentir et que j'accélérerai un petit peu plus tard pour reprendre le tempo. Donc, finalement, il y a quelque chose d'assez intuitif. Et une fois que la partition est annotée, elle est quasiment sue pour moi. Alors, je peux des fois oublier une partition parce que je n'ai pas dirigé pendant des années et la reprendre. Mais à partir du moment où j'ai une partition annotée, je sais où je vais. Voilà, en gros, donc c'est un travail solitaire, mais qui est presque un travail plus analytique qu'un travail, évidemment, physique. Je ne bats pas la mesure devant un miroir en train de me dire assez régulier ou c'est pas régulier. Ça, c'est autre chose.
Vous ne les connaissez pas par cœur, les partitions ?
Non, certaines oui, mais je dirige très peu par cœur, même les œuvres que je connais par cœur. J'ai reparlé de Boulez, on lui disait, mais enfin, vous avez dirigé le Sac du Printemps des milliers de fois, pourquoi vous avez encore la partition et pourquoi vous ne dirigez pas par cœur ? Il disait, parce que moi, je sais lire la musique. Bon, alors, c'était une boutade incisive, comme savait les faire Boulez. Mais c'est vrai que, à quoi bon se mettre en danger sur des œuvres très complexes et du coup être omnubilé par le fait de ne pas avoir de trou de mémoire alors qu'on peut avoir une partition sous les yeux.
Donc, s'approprier la partition et puis les répétitions aussi avec les musiciens. J'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours, surtout quand vous dirigez à l'étranger. Il y a l'obstacle de la langue. Il faut convaincre aussi tous les musiciens de l'interprétation que vous faites de l'œuvre. Vous rencontrez parfois des obstacles avec...
Bien sûr. Et c'était surtout le cas en début de carrière parce que, comme je disais tout à l'heure, un chef, c'est un manager. Et quand vous êtes très jeune... vous faites les erreurs de tous les managers quand ils sont jeunes. Par exemple, face à une collectivité orchestrale qui peut être composée de gens qui ne se parlent pas dans la vie, qui ne s'aiment pas, etc., si vous commencez à mettre un musicien en défaut, bizarrement, l'orchestre va prendre sa défense. Donc si, je ne sais pas, et ça a pu m'arriver quand j'étais très jeune chef, de dire non, mais là, quand même, la clarinette, c'est pas grave. En général, vous mettez l'orchestre à dos et c'est terminé. Donc, il y a des erreurs qu'il faut faire. Et plus on les fait jeunes, mieux c'est. C'est comme la varicelle, il vaut mieux l'attraper jeune. Voilà, donc,
En fait, vous ne dirigez pas un orchestre, vous dirigez avec un orchestre. Ça reste...
Oui, c'est une jolie expression, ce que vous avez dit là, de diriger avec un orchestre. C'est vrai que le modèle du chef dictateur, il appartient un peu au passé aujourd'hui.
Ça vous arrive de diriger des orchestres plus traditionnels parce que vous dirigez donc des ensembles contemporains, mais vous...
Ah oui, bien sûr, oui, des orchestres symphoniques. Donc, j'ai une histoire très forte avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, par exemple, où j'ai souvent dirigé l'orchestre philharmonique de Radio France, et des formations comme ça, oui. Et à l'étranger, il y a eu des orchestres avec lesquels j'avais un travail de fidélité. Par exemple, Simon Bolivar au Venezuela, à Caracas, qui est un orchestre absolument splendide. La situation de sécurité fait que maintenant, je n'y vais plus, mais j'ai beaucoup travaillé là-bas, par exemple.
Et votre approche reste la même selon que ce soit un orchestre de musique contemporaine ou un orchestre plus traditionnel ?
En fait, oui. C'est-à-dire que les partitions et le répertoire fait que vous ne pouvez pas avoir la même approche. Moi, je suis toujours à peu près le même. Je suis assez basique comme garçon. C'est-à-dire que je ne triche pas. Je fais des blagues. Si ça fait rire, ça fait rire. Si ça braque l'orchestre, ça braque l'orchestre. Je ne vais pas me changer. Ce n'est pas mon activité principale de diriger. D'ailleurs, j'ai du mal à savoir quelle est mon activité principale aujourd'hui parce que je pense que celle qui me définit, c'est l'écriture. Mais je passe beaucoup de temps, je dirige le conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, j'ai dirigé le conservatoire de Paris pendant 9 ans, je suis le directeur artistique du Printemps des Arts de Monte Carlo, donc je passe beaucoup de temps à faire autre chose. Mais ce qui me définit, c'est l'écriture. Donc la direction d'orchestre, c'est un plus, ce qui me permet de l'aborder avec sérieux mais grande légèreté. Quand vous êtes un chef d'orchestre et uniquement un chef, vous allez devant un orchestre avec l'obsession d'être réinvité, comme le politique qui va être réélu. Donc, des fois, vous allez frotter l'orchestre, caresser l'orchestre dans le sens du poil pour essayer d'avoir les faveurs. Moi, je n'ai pas ce problème-là, on va dire. Ça me donne une grande liberté.
Quand l'orchestre joue, vous êtes dos à la salle, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous savez dire tout de même quand une salle est conquise et quand elle ne l'est pas ?
On sent des choses.
Vous arrivez à deviner ?
On sent. Alors là, c'est très compliqué à définir. On sent des bonnes ondes. Ce n'est pas forcément les applaudissements, d'ailleurs, qui traduisent l'enthousiasme. On sent la salle. Moi, je me souviens d'une fois, alors là, c'est une chose négative, mais je dirigeais un concert à la Philharmonie de Shanghai, et il y avait quelqu'un dans les premiers rangs qui, visiblement, avait une urgence de prendre des bonbons et de manger des bonbons, qui était emballé dans du plastique, donc qui a commencé à faire... Et je me suis carrément retourné tout en dirigeant, en faisant signe que ce serait bien que ça s'arrête. Voilà, ça. Mais vous sentez la salle, bien sûr.
Il n'y a rien de pire que le bruit dans une salle, pour un chef d'orchestre, j'imagine.
Oui, puis c'est pas très fair-play vis-à-vis non plus des voisins.
Non.
Comme les téléphones portables.
Dans votre discours de réception sous la coupole, après votre élection à l'Académie des Beaux-Arts, vous faisiez le constat que la majeure partie des musiciens français sont frappés par la maladie de l'individualisme. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de football, c'est peu de le dire, mais il paraît qu'on a des très grands joueurs, mais pas toujours de très grandes équipes, parce que les individualités l'emportent sur le collectif. Dans les orchestres français, il peut arriver qu'on ait des musiciens vraiment hors catégorie, mais que la cohésion ne soit pas toujours l'objectif premier, parce que par exemple, on apprend le violon individuellement et pas en collectivité. C'est pas la même chose, d'ailleurs, pour la danse ou pour le théâtre, parce que la danse et le théâtre s'apprennent en troupe, pas la musique. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour que le musicien qui se retrouve dans un orchestre se sente investi d'une mission collective et pas uniquement individuelle.
Dernière question. En France, on compte seulement 4% de chefs d'orchestre femmes. C'est peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le monde de la musique, ça reste un des postes, la chefferie d'orchestre, l'un des postes les plus masculinisés par rapport à d'autres statuts dans ce monde-là.
Oui, parce qu'il y a un historique là-dessus. C'est l'exercice du pouvoir et des responsabilités qui ont souvent... on peut faire le parallèle entre la direction d'orchestre et les entreprises du CAC 40. On ne doit pas être très loin de 4% quand on regarde les grands postes de décision dans l'économie mondiale. Regardez la brochette autour de l'élection de Trump aux États-Unis. Les grandes fortunes mondiales sont évidemment masculines. La situation a beaucoup changé dans les 10 dernières années, on va dire. Je crois que la situation, elle change aussi parce qu'à partir du moment où on voit plus de femmes dirigées, il y a un effet boule de neige, en fait. C'est-à-dire que susciter des vocations est une chose importante. Et c'est ça qui casse le côté « c'est pas pour moi ». Donc, la situation bouge. Moi, j'ai toujours peur que, dans les politiques volontaristes, des fois, on prenne le taureau par les mauvaises cornes. C'est-à-dire que après, on engage des... Alors, on vous dit il faut engager 30% de femmes dans les institutions et qu'on les engage parce qu'elles sont femmes ou sur des répertoires.
Les quotas.
Voilà. Donc, mais en même temps, moi, j'ai un peu changé d'idée là-dessus. Je pense que... Moi, j'étais contre tout ça parce que je trouvais que c'était une forme de mépris par rapport aux femmes elles-mêmes. Puis je me dis, si c'est le seul moyen de faire changer la situation, alors il faut jouer cette carte. En fait, j'ai beaucoup moins d'idées sur la question. Moi, j'ai eu une polémique qui m'a touché il y a très longtemps, mais qui était loin d'ailleurs de ma réalité, de mon rapport aux femmes qui dirigent les orchestres, puisqu'il se trouve que j'ai énormément travaillé, bien avant que ça devienne un sujet, avec des femmes chefs, donc pour moi la question ne se posait pas. Mais je crois que j'étais passé à côté d'un truc à l'époque où j'ai eu cette polémique, c'était que, comme c'était pas un sujet pour moi, j'avais l'impression que c'était un sujet pour personne. Or, c'était un sujet. Et je me suis un peu fait avoir, d'abord par le journaliste qui n'était pas forcément bienveillant, mais aussi par moi-même, parce que oui, peut-être qu'il était nécessaire que ce sujet devienne une priorité pour qu'un jour ça ne le devienne plus.
Ouais, vous avez évolué dessus. Merci beaucoup Bruno Mantovani pour cette petite incursion dans la chefferie d'orchestre. Alors, à côté de ça, je le disais, vous êtes un peu engagé sur tous les fronts. Vous avez une grande actualité en 2025. Quels sont les prochains concerts, les prochains événements que vous souhaiteriez signaler ?
Prochaine création, c'est l'Orchestre National de France en avril, avec un concerto pour quatuor à cordes par le quatuor Diotima. Et c'est une chef qui dirigera la création, tiens.
Très bien.
Et puis, le Printemps des Arts de Monte Carlo, qui débute dans un mois maintenant.
Donc vous dirigez la programmation,
non,
c'est
je
ça
dirige, ouais, là, je fais la direction artistique. Bientôt, en tant que chef, la décréation d'Emmanuel Dacosta, une jeune compositrice qui a eu un prix de l'Académie des Beaux-Arts l'an dernier, qui est formidable, et une grande pièce de Philippe Hurel. Voilà, donc une activité permanente.
Et foisonnante. Eh bien, nous mettrons tout cela sur notre page. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Les podcasts de l'Institut de France.